Goût du Monde, Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue dans le Goût du Monde, votre émission culinaire, alimentaire, élémentaire. La manière dont nous mangeons, où nous mangeons, dit beaucoup de nous et de notre histoire. Elle nous définit. Je mange, donc je suis. C'est une très belle exposition qui a lieu en ce moment au Musée de l'Homme à Paris. L'alimentation, pour qui aime les enquêtes, pour qui veut comprendre, est l'un des indices les plus complets, mais aussi peut-être les plus complexes et mystérieux. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, pas à la nuit des temps, parce que le temps dont nous allons parler n'était pas tout à fait le premier de l'humanité. C'est la période la plus longue de la préhistoire, le paléolithique. Et nous ne sommes pas seuls, non, heureusement. Pour ce voyage, nos guides aujourd'hui sont Camille Dojard et Roland Nespoulet, tous deux chercheurs, préhistoriens. Bonjour.
Bonjour.
Camille, vous êtes chercheur au CNRS, archéozoologue rattaché au Muséum d'Histoire Naturelle, où vous êtes préhistorien. Roland Nespoulet, je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Alors, cette cuisine préhistorique, pour l'aborder, on va s'intéresser à une période bien précise. Alors, j'ai dit le paléolithique et pas tout à fait la nuit des temps de l'humanité. De quelle période parle-t-on exactement? Enfin, si on peut dire exactement, d'ailleurs.
Oui, exactement, c'est le problème, d'ailleurs.
C'est le problème.
D'être exact. C'est forcément arbitraire, une définition chronologique. Donc, celle qu'on retient pour l'instant, celle qui fait consensus, si on peut dire ça comme ça, c'est apparition des plus anciens outils taillés en roche dure. Et pour l'instant, c'est environ 3 millions d'années en Afrique. Donc voilà, c'est 3 millions d'années jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Et ça représente quand même quelques 100 000 générations, si on s'amuse à faire un calcul comme celui-ci. Donc voilà, c'est une longue période et ça commence en Afrique. Et puis à partir de 2 millions d'années, ça continue ailleurs sur d'autres continents, le continent eurasiatique, jusqu'aux périodes les plus récentes, où même l'Australie, même les Amériques sont peuplées par nos ancêtres. Enfin, nos ancêtres, on ne sait pas trop d'ailleurs. En tout cas, des espèces qui nous ont précédés.
En tout cas, ça nous permet un petit peu de mettre en termes alimentaires une idée et un cursus de là où on se trouve. On est avant le néolithique, donc avant l'agriculture. On se situe dans une période où il n'y a pas d'élevage, pas d'agriculture. On est avant tout cela, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
Vous êtes tous les deux des chercheurs de terrain. Et est-ce que ce n'est pas là, justement, où tout commence, sur le terrain, Camille Dojard?
Bah oui, c'est vrai que c'est là qu'on va commencer à trouver des vestiges archéologiques, des vestiges fossiles. Et c'est vrai que ma discipline, moi je fais de l'archéozoologie, donc c'est vraiment l'étude de la relation entre l'homme et l'animal, et notamment au niveau de l'alimentation. Par exemple, si on prend l'exemple d'un site néandertalien d'Ardèche, où a été découvert des restes osseux animaux fossiles, et ben c'est sur le terrain effectivement qu'on fait ces découvertes et après en laboratoire on les étudie ces restes osseux et c'est eux qui vont nous donner plein d'informations sur l'alimentation de ces hommes paléolithiques.
Parce que je disais ça de manière un peu caricaturale, mais c'est vraiment tout un processus d'enquête, d'observation. On va, on fouille, on a des outils. Comment est-ce que ça se passe justement? Comment est-ce qu'on obtient des éléments de réponse aux questions et aux suppositions que l'on se fait? Roland Nespoulet.
Avant de répondre, je veux juste rappeler une chose qui n'est pas forcément évidente. C'est que tout site archéologique, surtout pour ces périodes très anciennes, c'est exceptionnel. C'est toujours exceptionnel d'avoir des objets, des ossements conservés qui ont plus d'un million d'années. Plus de 100 000 ans, à chaque fois, donc c'est exceptionnel. Et la façon dont on les découvre, il y a deux grandes façons. Hein. La prospection, c'est-à-dire qu'on prend les cartes géologiques, on fait appel aussi aux savoirs locaux, et on arrive à retrouver des grottes, des abris, des sites de plein air. Et puis, il y a les découvertes fortuites, aménagement, l'urbanisme quasi mondial maintenant fait qu'on fait beaucoup de découvertes, ou une découverte fortuite, la plus belle et la plus connue en France, c'est la découverte de Lascaux, par exemple, par des enfants. Donc voilà, les deux grandes façons de découvrir les sites. Et après, là, on rentre dans la phase vraiment scientifique, qui est, pour l'étude d'un site, c'est forcément une équipe pluridisciplinaire, c'est trouver des moyens, faut jamais l'oublier, on passe beaucoup de notre temps à chercher des moyens financiers pour faire nos travaux sur le terrain. Et je dirais que le terrain est la partie centrale, fondamentale, mais en même temps la partie émergée de l'iceberg, parce qu'après les 3 semaines, 1 mois ou 2 mois de terrain, que ça soit en Afrique du Nord pour Camille et moi, par exemple, ou en France, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années de travaux, d'études, d'analyses pour arriver aux publications qui sont l'objectif de nos travaux.
Qui permettront justement d'expliquer ce que vous avez pu trouver et pu comprendre. Alors, cette émission, évidemment, elle est consacrée à l'alimentation majeure, bien sûr, pour comprendre un petit peu comment vivaient les gens avant. Est-ce qu'on peut déjà dire, sur un plan très général, évidemment, comment mangeait l'homme au paléolithique?
J'ai vraiment envie, alors je vais le faire, de citer une collègue qui avait fait sa thèse et qui a fait un ouvrage qui est de référence sur le feu. Alors le feu, c'est, je vais pas parler de feu, hein. Simplement je fais un parallèle parce que ce que cette collègue dit, Catherine Perlès, c'est que quand on le feu, c'est un truc fondamental dans l'histoire de l'humanité, mais quand on regarde scientifiquement ce qui se passe, il y a trois catégories d'observations qu'on peut faire. Il y a les faits archéologiques qui sont avérés, il y a les hypothèses qu'on peut formuler, et puis il y a ce qu'on suppose. Donc voilà, c'est un petit préalable, et c'est, moi je pense que c'est tout à fait vrai pour l'alimentation. On sait que c'est fondamental, on ne serait pas là si nos ancêtres n'avaient pas trouvé de quoi s'alimenter correctement. Mais quand on regarde dans le registre archéologique, là ça devient un peu plus compliqué. Et finalement, il y a beaucoup plus d'hypothèses et de suppositions que de faits avérés sur vraiment concrètement ce que c'était que l'alimentation. Mmh. Mais sinon, je pense qu'on peut développer peut-être dans un premier temps les faits, puisqu'on parlait des sites archéologiques, donc c'est là que ça se passe. On va découvrir ou fouiller un foyer dans lequel on va trouver des ossements brûlés, c'est déjà une piste intéressante quand même. On se dit qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu cuisson, qu'il y a eu... voilà. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut donner. L'autre auquel moi qui m'est cher, parce que chacun en préhistoire on a une spécialité, c'est vrai que je l'ai pas dit, moi je suis plutôt, même si bon c'est un petit peu loin maintenant, mais c'est-à-dire que j'ai un peu diversifié mes centres d'intérêt, mais je travaille plutôt sur les silex taillés, donc ce qu'on appelle les productions techniques, comment on taille le silex, comment on le retouche, comment on l'utilise. Eh bien l'un des aspects de ces objets-là qui ont la caractéristique de se conserver très longtemps, puisque c'est très résistant, c'est l'analyse des tranchants. Avec des microscopes, avec l'expérimentation, peut-être qu'on y reviendra, et on arrive à déterminer parfois ben, tel objet a servi à découper la viande, à dépecer, à broyer des végétaux. Et donc là, on a une porte d'entrée aussi sur à quoi ça a pu servir et comment ça a pu servir pour s'alimenter.
Oui, on s'appuie sur des découvertes très concrètes. Je pensais, ben, vous faites allusion aux os, aux S, aux outils évidemment, aux foyers. Camille?
Oui, par rapport à la question sur comment, qu'est-ce qu'on mangeait au paléolithique et comment on peut le savoir, c'est en rebondissant sur ce que vient de dire Roland. Donc il y a les vestiges, donc à la fois osseux mais aussi lithiques. Sur les tranchants, on peut voir des traces, enfin lithiques donc en pierre, des outils en pierre. Mais en fait, il y a beaucoup de méthodologies différentes pour accéder. Et c'est vrai que c'est pluridisciplinaire notre vraiment pour accéder à l'alimentation paléolithique. Donc il y a ce qui nous saute aux yeux sur le terrain, c'est les ossements fossiles parce que c'est ce qui se conserve très bien aussi comme les outils. Mais en fait, on a aussi plein d'autres entrées, notamment tout ce qui est la biogéochimie, les isotopes qu'on retrouve dans les ossements humains. Donc on arrive à savoir un petit peu où se situent les hommes préhistoriques dans la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est des grands carnivores? Est-ce qu'ils sont un petit peu moins carnivores? Et on a aussi ce qu'on retrouve dans les dents piégées, dans les dents de ces hommes. Donc il y a des fois des petits micro-restes végétaux qui sont piégés dans ce qu'on appelle le tartre dentaire. Et ces micro-restes vont nous donner une fenêtre sur la part végétale, donc pas qu'animale, de l'alimentation. Par exemple, si on prend l'exemple de Néandertal, grâce aux isotopes, on sait que c'était un gros carnivore, un grand carnivore. On le sait aussi parce que sur les sites néandertaliens, il y a énormément d'ossements fossiles animaux, de grands herbivores, généralement du renne, du bison, du cheval. Mais récemment, en fait, grâce à ces nouvelles méthodologies, on sait qu'il avait aussi un accès à tout ce qu'elle a du monde, au monde végétal. Et pour s'alimenter, mais pas seulement, pour aussi pouvoir se soigner, par exemple.
Chaque hypothèse se développe, en fait, au fur et à mesure aussi des découvertes, des avancées technologiques, on apprend de nouvelles choses qui confirment d'autres ou pas. C'est progressif, en fait. Et en plus, c'est totalement éparpillé. Il y a la géographie qui change. Enfin, on ne peut pas faire d'une généralité, d'une mode d'alimentation, de toute manière. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'ils étaient omnivores, a priori?
A priori, il suffit de regarder nos dents, en fait. Ou les dents de nos ancêtres, on a à peu près les mêmes. Donc oui, effectivement, on est omnivore depuis longtemps. On a une capacité masticatoire et probablement aussi physiologique à manger à peu près tout. Les hypothèses formulées pour les plus anciennes formes, donc on est même avant la lignée Homo, à 3 millions d'années, c'est un registre alimentaire qui va vers le végétal plutôt dur. Ça, c'est l'usure des dents qui nous permet de le déterminer.
Quand vous dites végétal plutôt dur, ça veut dire quoi? Genre des glands, genre des...
C'est plutôt des graminées. Là, on parle plutôt de population africaine, hein. Donc c'est graminées. C'est pas forcément des steppes sèches, hein. C'est aussi dans des milieux marécageux, famille des papyrus par exemple. Donc ça, on sait que c'est avéré en tout cas sur les traces dentaires. Mais ça n'empêche pas que au même moment, il y a des consommations de petits gibiers par exemple. Donc il y a déjà cette dualité du régime alimentaire dès les premières phases de ce que nous on appelle l'histoire de l'homme en fait.
Parce qu'on a quand même une idée, un grand, grand cliché qui est, quand on parle de l'homme préhistorique, il ne mangeait que de la viande crue. On en a cette idée-là quand même.
Donc ça, c'est Camille qui peut le mieux en parler.
C'est intéressant de pondérer peut-être cette idée-là.
Mais justement, oui, effectivement, ça nous permet de...
C'est faux ?
Non, c'est pas faux. Pas complètement, justement. Ça dépend des types d'hommes. Ça dépend des environnements, comme vous le disiez tout à l'heure. On a quand même... Il faut quand même rester très au niveau du contextuel, au niveau de chaque site. Les environnements sont très variés.
Des climats, des saisons.
On ne trouve pas les mêmes aliments toutes les saisons. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est sûr que pendant les périodes glaciaires, on a l'accès à la viande devait être vraiment important. Ça, c'est sûr. Mais bien sûr, ce sont des omnivores. Et comme je disais tout à l'heure, on sait maintenant qu'il y avait aussi une part végétale importante. Mais on a moins l'accès, malheureusement, vers cette part végétale. Elle est plus compliquée à mettre en évidence.
Parce qu'on en a peu. Il n'y a pas de traces.
Il y en a c'est peu, moins conservé, bien sûr, la conservation. Puis les méthodologies, elles sont encore innovantes. Enfin, ce sont des nouvelles méthodologies. Donc, tout ça, c'est compliqué. Mais oui, c'était quand même les hommes du paléolithique étaient de grands chasseurs, des charognards aussi, donc pour avoir la viande.
Avant d'avoir appris à chasser, même peut-être qu'il fallait des outils pour pouvoir chasser, et donc il y a tout un processus qui se met en place.
Je pense à un point important peut-être qui, dans ce moment de la discussion, qu'on peut rappeler, c'est la notion de saisonnalité. Donc il y a les grandes chronologies, on parle de 3 millions d'années, 100 000 ans, et puis il y a ce qu'on arrive parfois à reconstituer, bonne saison, mauvaise saison, été-hiver si on veut, ça marche pas partout, hein, les zones tempérées, ça marche, mais pas ailleurs. Et dans certains cas, on arrive à supposer, hein, là on est dans la partie supposition, hypothèse, supposition, qu'au fil de l'année, il y aura peut-être un moment de l'année, il y aura une alimentation plus carnée, et un autre moment de l'année, le même groupe qui va se déplacer dans un territoire déterminé, une sorte de nomadisme récurrent, aura un régime qui sera plus végétal, par exemple, ou plus... peut-être qu'on en reparlera, ressources maritimes, ressources marines.
On est lié aux migrations, on est lié aux montaisons également, peut-être du poisson dans les cours d'eau. C'est ça aussi, les saisons en termes de... et des besoins physiologiques aussi de l'homme préhistorique. J'imagine que quand il faisait plus froid, on avait plus besoin de manger ou de trouver en tout cas du gras et de la viande peut-être, Camille Dojard ?
Oui, tout à fait. La graisse, c'est important. La graisse, c'est la vie. Et c'est vrai qu'au niveau physiologique, oui, tout à fait, on s'aperçoit que, bah, par exemple, je vais revenir sur ce site d'Ardèche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut être impressionnant de voir qu'en fait, sur un sol archéologique, on retrouve jonché de désossements d'herbivores, donc fossiles. Mais ces ossements, ils ne sont pas entiers, en fait. Ils sont presque tous, si ce n'est tous d'ailleurs, dans certains sites néandertaliens, fracturés. Et pourquoi ils sont fracturés ? Parce que, en fait, les hommes avaient ce besoin de graisse important et donc récupéraient, en fait, dans les os, la moelle. Et cette moelle, elle est riche en lipides et elle était très, très, très importante. Et on voit qu'en fait, c'était une recherche quasi systématique. Et ça a perduré, là je vous parle du monde néandertalien, mais ça a perduré aussi au paléolithique supérieur, dans les sites plus récents, les hommes modernes. Donc oui, la recherche de graisse, c'était importante. Et pas seulement de la graisse provenant de la moelle, d'ailleurs. Il y a aussi la recherche, par exemple, avec la graisse qui est elle-même piégée dans l'os, dans les portions articulaires spongieuses des os. Il y a de la graisse. Et pour la récupérer, les Inuits le font, par exemple. On va faire du bouillon gras. On va casser ses os et les faire bouillir et récupérer la graisse.
Ça, c'est sidérant de découvrir ça.
Au niveau archéologique, c'est pas facile mais à mettre en évidence, mais voilà, on a quand même de grandes suppositions sur ces techniques-là.
Vous appuyez sur quoi d'autre pour voir justement comment on se nourrissait ? Alors, vous avez parlé brièvement des dents. Est-ce que l'analyse des dents est assez significative ? Est-ce qu'elle raconte plein de choses, cette analyse ?
Le principe général, si on veut revenir un tout petit peu en amont, qui est d'ailleurs le principe de toutes les disciplines des sciences naturelles, c'est le principe d'actualisme. Alors, c'est pas pour sortir un mot compliqué, c'est que pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé il y a fort longtemps, on part du principe que ce qui se passe aujourd'hui, ça devait être plus ou moins les mêmes règles physiologiques, physiques. Par exemple, pour les dents, on a un référentiel de dents actuelles avec des régimes alimentaires. Ce sont donc des micros, il faut un microscope pour voir ces usures dentaires ou ces stries. On compare donc des stries dont on connaît la cause. On sait que telle personne a plutôt mangé de la viande, donc il y aura des stries de tel type. Et on regarde les dents de nos ancêtres, ou très longtemps nos ancêtres, et on les compare. Oui. Je peux faire exactement le même développement à propos des outils en silex. J'aime beaucoup, moi, l'idée que les préhistoriens, pour comprendre un geste qui s'est produit il y a peut-être 200 000 ans, vont refaire le même geste, trouver le même silex, tailler un objet, une sorte de réplique de l'objet paléolithique, l'utiliser, par exemple 20 minutes pour racler une peau, 5 minutes pour découper un steak de bison. Avec précaution, observer le tranchant de cet outil expérimental et ensuite comparer avec l'outil qui, lui, est dans le sol depuis tant de millénaires. Et quand ça marche, alors ça marche pas à tous les coups, quand ça marche, on n'a pas forcément une affirmation, mais on a un faisceau d'indices pour dire la dernière utilisation de ce silex, c'était pour, par exemple, fracturer des os. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ça, mais voilà, c'est extrêmement concret, ça marche pas à tous les coups, et on n'a pas forcément une réponse définitive, sachant que on ne parle. Et là, je reviens sur les usures dentaires. Ça fait comme une ardoise magique, c'est-à-dire que chaque repas efface les repas précédents. Donc, on ne peut parler finalement que des repas, si on parle des stries dentaires, des derniers repas de l'individu. Et concernant les outils en silex, on ne peut parler que de ces dernières utilisations. Le silex qui aura servi à découper de la viande, il a très bien pu servir deux jours avant à racler du bois végétal. Ça, on ne le saura pas parce que les traces auront été effacées. En même temps, c'est très concret, c'est extrêmement pointu, et en même temps, on sait très bien qu'on n'a qu'une seule partie d'information.
A-t-on beaucoup de sources d'informations? Est-ce que des squelettes, des éléments justement concrets au fil des fouilles qui vous permettent justement d'élaborer toutes ces pistes?
C'est ce que je disais, je vais peut-être donner un exemple. Au tout début, je disais que de toute façon, c'est un site paléolithique ou un site préhistorique, c'est toujours exceptionnel, toujours. Juste pour vous donner, alors ça peut paraître un petit peu hors de propos, mais pour donner une idée quantitative, lorsqu'on parle des squelettes humains, des hommes qui ne sont pas nos ancêtres, mais des homo sapiens comme nous, qui ont vécu en Europe occidentale entre moins 35 et moins 10 000 ans, voilà. La période la plus récente finalement du paléolithique, en tout et pour tout sur tout le territoire qui va donc du sud de l'Espagne jusqu'en Sibérie, on a 150 squelettes pour 30 000 ans, pratiquement 30 000 ans d'histoire humaine et des millions de kilomètres carrés. Donc voilà, c'est toujours exceptionnel d'avoir ce type de vestiges et on doit rester prudent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de généraliser alors qu'on sait que on n'a qu'une toute petite partie de l'histoire en fait qui a été conservée.
Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles techniques qui permettent, je pense notamment au pollen, est-ce qu'on a de nouvelles techniques qui permettent de dire un petit peu, est-ce qu'il y a des traces de pollen par exemple, ou des traces de végétaux qui permettent d'élargir un petit peu la gamme de produits qui pouvaient être mangés, découverts, dont on se nourrissait? Camille?
Pour les pollens, c'est pas évident, parce que les pollens, c'est surtout, on les retrouve dans les sédiments, mais c'est compliqué de faire la part de ce qui peut être d'origine naturelle, de ce qui peut être anthropique dans les sites archéologiques. Par contre, pour la part végétale, cette découverte, en fait, de ces micro-végétaux piégés dans le tartre dentaire, ça, c'est intéressant, ça nous a donné ce volet où on s'est aperçu que Néandertal, par exemple, pouvait ingérer, en tout cas, par exemple, des végétaux comme de la camomille. On en a découvert, on a découvert d'autres végétaux aussi. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu plusieurs hypothèses après avec ça. Est-ce que c'était purement alimentaire, ces végétaux, ou est-ce qu'ils pouvaient s'en servir pour se soigner, par exemple la camomille, pour la digestion, ou alors, pourquoi pas aussi, la camomille, elle a ce goût amer, en fait, qu'on lui connaît quand on la mange. Peut-être aussi une autre hypothèse, c'était de pouvoir prendre cette camomille pour pouvoir couvrir, en fait, c'est ça, le goût d'une, par exemple, de la viande putréfiée. Parce que, bon, voilà, je reviens sur la viande, du coup. Mais ce qui est intéressant, on parlait du feu tout à l'heure, c'est de pas se dire qu'on est sur une évolution linéaire dans la préhistoire. C'est qu'on sait que le feu, on a des occurrences avant 1 million d'années en Afrique. Mais c'est potentiellement pas un feu domestiqué. Les premiers feux domestiqués, où on va avoir vraiment plusieurs témoins de l'utilisation du feu, ça va être autour de 400 000, 300 000 dans l'Ancien Monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'il y a eu ces découvertes de feu, des découvertes de foyers dans les sites archéologiques, on sait que les hommes domestiquaient le feu, ils ne l'utilisaient pas tout le temps. Et il y a d'autres manières, en fait, de préparer. Par exemple, si on prend l'exemple de la viande, il y a plusieurs façons de préparer de la viande sans la cuire. On peut justement la laisser fermenter, la putréfier, la lacérer, le marteler aussi, pour la rendre plus digeste, sans forcément devoir la cuire. Je vous dis ça parce que justement, si on revient sur la camomille, peut-être que ça peut être aussi, les chimpanzés le font, hein, utilisent des feuilles un petit peu avec ce goût pour pouvoir justement manger une viande qui serait pas bonne, quoi, charogne.
Tout à fait, c'est une appréciation un peu empirique aussi, on découvre qu'avec telle plante...
J'ai un exemple qui vient en tête, c'est un peu un scoop parce qu'on n'a pas encore publié. Ça se passe au Maroc dans un site qu'on fouille depuis pas mal d'années et dont les niveaux les plus anciens ont 120 000 ans. Donc ça peut paraître vieux, mais en fait c'est assez récent dans l'histoire de Homo sapiens. Dans ce niveau, on a trouvé des foyers et il y a des états de conservation tout à fait remarquables. Et avec un collègue, Laurent Marqueur, qui a fait des prélèvements, lui il est archéobotaniste, on s'est rendu compte après tri et sous la loupe qu'il y avait des fragments de noyaux d'olive. Et il y avait aussi des pollens d'olivier. Donc il y a eu toute une démarche. On est sûr maintenant que c'est bien de l'olivier qui est contemporain, parce qu'on sait aussi que dans les sites archéologiques, je fais une petite incise, mais ces petits éléments tout petits, ou comme les grains de charbon, ils peuvent se balader dans les sites. Et on peut faire des erreurs, c'est-à-dire qu'un charbon peut percoler dans le sol sur plusieurs mètres. Et,
donc attribuer un charbon attention, à un site et voilà, à une époque, à une histoire, alors que ça ne correspond pas forcément à cette histoire-là.
Là, on est sûr que c'est bien des olives de l'époque, donc d'il y a 120 000 ans. Alors tout de suite, ça ouvre l'imaginaire, parce qu'on se dit, mais ça se trouve, les mecs, il y a 20 000 ans, ils mangeaient des oliviers, peut-être même qu'ils avaient eu l'olive, et ça se passe au Maroc en plus. Ça, on n'y est pas encore, mais ce qui est avéré, et ce qu'on va proposer comme hypothèse, avec des faits avérés, c'est que le bois de combustion de ces foyers, c'était l'olivier. Donc voilà, ça c'est un peu l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on on a trouvé du végétal bien conservé, on sait que l'usage de l'olivier comme combustible, ça marche, c'est bon, ça c'est, on pense l'avoir démontré, mais... Après, est-ce qu'ils ont, ils sont allés plus loin, puisqu'ils avaient l'olivier sous la main, est-ce qu'ils en ont consommé? Ça, pour l'instant, on peut pas le dire.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les mûres en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle des morts.
La ruelle des morts de Hubert Félix Thiéphaine sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde avec Camille Dojard, archéozoologue au Musée National d'Histoire Naturelle, et Roland Nespoulet, préhistorien. Ensemble, nous remontons le temps de moins de 3 millions d'années à 10 000 ans avant notre ère, je crois, au Paléolithique, pour comprendre ce dont se nourrissaient les hommes préhistoriques et les cultures nées de ces pratiques qui parfois subsistent aujourd'hui. Pour manger, pour trouver, là on parlait juste avant d'écouter la chanson du Hubert-Félix Thiéphaine, on parlait de l'olivier et de cette découverte. Il y avait une question concernant les végétaux que je me posais, c'est est-ce qu'il y avait déjà un choix dans les végétaux que l'on mangeait en termes de pharmacopée? Vous l'avez abordé, Camille Dojard, en parlant de peut-être que la camomille était bonne pour la santé. Est-ce qu'on choisissait? Est-ce qu'on apprenait que tel ou tel végétal pouvait être un poison? Est-ce qu'il valait mieux privilégier l'un plutôt que l'autre?
J'ai envie de répondre, mais peut-être qu'on fera deux réponses. Par un site plus qu'exceptionnel, exceptionnellement exceptionnel, c'est le site d'Ohalo 2, qui est sur le bord du lac Tibériade, en Israël. C'est un site qui est daté de 25 000 ans, donc c'est quand même assez ancien. Et les collègues qui fouillent ce site ont trouvé plus de 150 000 restes végétaux. Alors pour situer les choses, moins 25 000 ans, c'est bien 10 à 15 000 ans avant l'arrivée de l'agriculture et de la néolithisation. Donc on est dans une période en plein paléolithique de chasseurs-cueilleurs. Ce ne sont que des plantes sauvages. Il y a plus de 150 taxons, dont des mauvaises herbes, mais aussi toute une série de graminées, des blés sauvages, de l'orge sauvage, qui témoignent. Alors, est-ce que Ohalo est une exception dans l'histoire de l'humanité, ou est-ce que c'est, il y a plein de sites comme Ohalo 2, mais qu'on en a trouvé qu'un? En tout cas, je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a dès 25 000 ans, une appropriation d'un certain nombre d'espèces, un nombre important, et il semblerait, je vais pas rentrer trop dans le détail de ces publications, mais il semblerait bien qu'à Ohalo, il y a bien une sélection des espèces pour de la pharmacopée, pour de l'alimentation, notamment ces céréales sauvages, qui ont été consommées, parce qu'on a trouvé des broyeurs, des meules, dans ce site à moins 25 000 ans. Donc là, il y a bien une sélection dans les espèces sauvages environnantes, d'un certain nombre d'espèces, et là, on arrive dans la partie supposition, on n'est plus dans l'hypothèse, il y a bien une sélection. Est-ce que c'est par goût? Est-ce que c'est par qualité gustative? Est-ce que c'est par tradition culinaire? Ça, difficile de répondre, il y a 25 000 ans quand même.
Tradition culturelle également. Alors là, on parle de végétal, on peut parler évidemment de viande. Il a fallu se nourrir. Pour se nourrir, on a chassé, commencé à chasser. Comment est-ce que s'est opérée justement cette découverte de la chasse et qu'est-ce qu'elle a suscité et engendré, Camille Dojard?
Alors, déjà, c'est pas facile, comme plein de choses en paléolithique, de voir, d'avoir un début de cette chasse. Tout à l'heure, Roland a évoqué le fait qu'il y a déjà nos ancêtres, vraiment en Afrique, autour de 3 millions, il y avait un accès potentiellement à du petit gibier. Il y a toujours eu un accès à des charognes, soit tuées par des carnivores, soit découvertes à l'état naturel des animaux morts. Et la chasse, par contre, c'était au niveau des faits, ce qu'on a vraiment, c'est plus complexe. On peut avoir plusieurs façons de savoir comment les hommes, peu à peu, ont commencé à chasser du grand gibier. Déjà, par exemple, dans les sites archéologiques, selon les espèces qu'on trouve, par exemple, moi je travaille sur un site ancien au Maroc, on est à 500 000, on est dans un, au sens large, ce qu'on appelle un homme Homo erectus. On va pas rentrer dans les détails des appellations, mais on va dire que c'est de l'Homo erectus, à Casablanca. Et là, par exemple, on a découvert des marques de boucherie sur des ossements de gibier comme le zèbre, la gazelle ou encore une antilope comme le bubal.
Quand vous dites des marques de boucherie, ça veut dire quoi?
C'est des marques de découpe en fait. Les hommes utilisaient des outils tranchants pour récupérer la viande et c'est comme quand vous découpez vous votre poulet ou à la maison, vous allez peut-être avec le couteau laisser des marques sur l'os dont vous n'allez pas en prendre conscience, mais vous laissez ces marques. Nous, en tant qu'archéozoologues, ces marques, elles sont très très importantes. Elles vont nous donner un accès sur ce qu'ils ont mangé. Et s'ils ont mangé ça, si dans nos sites on a essentiellement des adultes et pas seulement des très jeunes ou des très vieux, par exemple des animaux qui seraient les plus fragiles et qui pourraient être du charognage du coup. Non, si on n'a que des adultes, là on pourrait quand même commencer à imaginer que ça peut être de la chasse. Parce que pour avoir un accès à des individus adultes, ça veut dire que là il aurait fallu les tuer, les abattre. Donc ça c'est un premier accès à la chasse. Donc ça on sait à peu près que à partir de l'Acheuléen, qui est une grande culture autour de 1 500 000 en Afrique et en Europe et en Eurasie, les hommes chassaient du grand gibier. Et on a dans un site assez exceptionnel en Allemagne, qui est le site de Schöningen, qui date à peu près de 300 000 ans. Là, on a eu enfin les armes de chasse, conservées parce que c'est du végétal, c'est très rare, on en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement rare que le végétal soit conservé, mais là, c'est d'anciennes tourbières, c'est des tourbières qui ont permis cette conservation. Et on a découvert des épieux en bois dans ces sites-là. Et alors, c'était une découverte assez exceptionnelle et qui a permis de valider, entre guillemets, le fait que ces hommes du paléolithique et ces hommes anciens étaient de grands chasseurs et savaient chasser. On avait leurs armes, enfin, même si nous, en tant qu'archéozoologues, on savait déjà que forcément, ils devaient pouvoir chasser. Mmh. Voilà, c'était...
Qu'est-ce que ça nécessite et qu'est-ce que ça suscite, du coup, dans la vie, en communauté ou en groupe, et j'ai envie de dire, la chasse? Est-ce que ça veut dire qu'on s'allie à d'autres? Sur le plan culturel, qu'est-ce que ça montre et qu'est-ce que ça engendre, Roland Espoulet?
Plein de cas de figure possibles, évidemment. je m'adresse à ceux qui nous écoutent, celles ou ceux, jeunes qui veulent peut-être devenir archéologues un jour et qui s'intéressent beaucoup à la chasse. Il y a un sujet qui a été très peu exploré encore pour le paléolithique, c'est l'histoire des pièges. Donc il ne faut pas oublier cette histoire-là, c'est qu'il y a un potentiel, et ce n'est pas simplement l'image d'un peu d'épinal, on creuse un grand trou et on attend que le mammouth tombe dedans. Donc c'est des pièges beaucoup plus élaborés. Si on écoute nos collègues éco-anthropologues, c'est un invariant dans toute la société de chasseurs-cueilleurs, le piège. Le piège pour les petits animaux, les moyens, les grands, c'est quelque chose qui existe chez toutes les populations de chasseurs. Donc je mets ça de côté parce que finalement c'est un champ qui est très peu exploré. Si on revient sur la chasse, et c'est un petit peu pour contrecarrer cette généralité des hommes qui sont opportunistes, qui mangent ce qu'ils peuvent, qui se débrouille, qui survit dans un environnement hostile. Non, non. Il y a sélection d'espèces, il y a organisation ou pas, ça dépend, peut-être Camille en parlait beaucoup mieux que moi, mais si on va chasser le lapin, on n'aura pas la même organisation sociale, cynégétique, que si on se décide d'aller chasser le rox, par exemple. Évidemment. Donc la proie qui est choisie...
Pas besoin du même nombre de personnes pour chasser, des mêmes stratégies.
Ça sous-entend aussi, et là je vais faire une généralité, mais qui est à mon avis fondamentale, qui renvoie aussi à ce qu'on sait dans l'art paléolithique, c'est que ça nécessite une connaissance de l'éthologie animale.
Éthologie, traduisez.
Éthologie, c'est-à-dire le mode de vie des animaux. Merci. À quel moment ils vont passer, à quel moment ils seront là, Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux plutôt des femelles, des jeunes, des adultes? Quel est leur comportement? Comment va se dérouler si on s'attaque à des animaux agressifs comme l'aurochs, par exemple? Quelle est la meilleure stratégie pour pas y laisser sa peau? Mais l'éthologie, ça va aussi, par exemple, et j'aime beaucoup cet exemple, peut-être j'y reviendrai après si on a l'occasion, mais la chasse à pied, ou la pêche à pied, pardon, sur le littoral atlantique marocain, ça nécessite, si on veut ramasser des moules, des patelles, de connaître parfaitement l'heure des marées, parce que c'est dangereux, en fait, hein, la pêche à pied. Et donc, on sait que depuis au moins 200 à 300 000 ans, les hommes maîtrisent ça. Donc voilà, derrière l'éthologie, moi, je mets tout ça, c'est le comportement des animaux, les cycles de la nature.
Parlez-nous quand même de ce site, justement. Vous parlez des coquillages et de ce site au Maroc. Alors, vous êtes obligé de... Vous m'en avez parlé avant. Donc.
Je fais une petite digression, mais ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le comportement des hommes préhistoriques pour l'alimentation n'est pas, peut-être opportuniste, mais l'est rarement, et c'est toujours une sélection dans un potentiel consommation. On peut vraiment faire le parallèle entre nous, aujourd'hui, occidentaux du XXIe siècle, vivant en France, on a des habitudes alimentaires, on est dégoûté par d'autres aliments qui sont tout à fait aussi bons. Donc voilà, ça révèle bien quelque chose de fondamentalement culturel, cette sélection. Je reviens donc sur mon exemple marocain. Imaginez, on est au bord de l'océan, il y a 120 000 ans, c'est à peu près le même niveau qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ceux qui connaissent le Maroc ou ceux qui vont aller le visiter, c'est environ à 15 km sur le littoral atlantique au sud de Rabat. C'est aujourd'hui une région très urbanisée. Ces hommes sont là il y a 120 000 ans. Ils occupent des grottes et des entrées de grottes. Et ils se nourrissent de gazelles. Donc, ils mangent de la viande. Mais aussi, ils mangent, donc, comme je le disais, des patelles, des bulots, des moules, beaucoup de patelles, qui vont ramasser à 200 à 300 mètres de leur habitat. C'est juste à côté, quoi. Ce qui est intéressant, on peut dire deux choses, moi. Il y en a une qui me fascine plus que l'autre. Alors, celle qui me fascine moins, c'est, OK, bah voilà, ils mangent des coquillages. Ils ramassent apparemment pas n'importe quel individu. C'est plutôt des individus gros qui ramassent. C'est logique, hein. C'est
plus charnu, voilà, a priori. Voilà.
Ça, on sait parce qu'on a la chance d'avoir des plages naturelles fossilisées qui sont contemporaines. Donc, on a pu comparer l'état naturel de ces populations de mollusques avec celles qui sont récoltées dans les, et ramenées dans les habitats. Donc voilà, il y a donc une gestion, voilà, on peut le dire, hein, il y a une gestion de cette faune littorale pour l'alimentation. Mais ce que je trouve, moi, le plus fascinant, c'est que au même moment où ces hommes vont ramasser ces patelles et donc préparer leur panier pour ramener ces fruits de mer et les préparer à la maison, enfin à la grotte, ils ramassent aussi d'autres petits coquillages qu'on appelle les nassarius, ils font moins d'un centimètre, qui contiennent de la chair, mais franchement, ça serait compliqué de s'alimenter avec ça. Et ce dont on s'est rendu compte, il y a pas mal d'années maintenant, mais on l'a bien documenté dans ce site au Maroc, c'est que ces petits nassarius n'étaient pas mangés, ils étaient portés comme des bijoux. Et donc ça veut dire qu'au même moment où il y a cette collecte, cette pêche à pied, il y a 120 000 ans, au même moment, on collecte d'autres mollusques qui vont certes, cette fois-ci non pas servir à manger,
avec une autre destination,
mais à parer les corps.
Pour la viande également. Ce qui est étonnant, c'est en termes de peinture rupestre sur les grottes, on va prendre par exemple Chauvet ou Lascaux, j'imagine. Elles sont donc décorées, entre guillemets, par des grands animaux. Est-ce qu'on assiste à des tableaux de chasse ou pas du tout?
pas une question évidente.
Où est-ce qu'on mange? Parce que est-ce que les animaux représentés sont ceux que l'on mangeait?
La magie de la chasse, c'était l'abbé Breuil qui avait développé ça. Parce qu'il y a eu plein de théories hein, sur ces, vous imaginez bien, sur l'art pariétal, sur les animaux, qu'est-ce que ça peut représenter? Ben, en fait, on sait malheureusement pas grand-chose. On n'y était pas. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des choses qui sont connues par ailleurs, c'est que les populations du Paléolithique supérieur mangeaient beaucoup de rennes. Je prends cet exemple-là parce qu'il est célèbre. Et que le renne n'est pas l'animal le mieux représenté sur les parois, par exemple. Mais pourquoi? C'est compliqué. Il y a le roi Gouran qui a essayé de faire une classification en fait des types d'espèces représentées dans les grottes selon l'endroit. Est-ce que c'était à l'avant de la grotte, dans les salles les plus profondes? Mais ça, c'est des grandes approches qui ne marchent pas à tous les coups. Par exemple, à la grotte Chauvet, ça, cette façon de classer les choses ne fonctionnait pas. À la grotte Chauvet, elle est assez particulière. Il y a notamment des félins, le tableau des félins. Donc, il y a des animaux qui ne sont pas forcément ceux que les hommes vont chasser.
Les manger.
Oui, on va peu chasser. Alors. Il y a des exemples hein, de félins dans un site espagnol qui ont été découpés. On a vu des stries de boucherie. Donc, les hommes ont mangé du carnivore. Mais c'est pas vraiment. C'était assez exceptionnel.
Mais comme dans les ossements que l'on va trouver dans les foyers, ce ne sont pas forcément les ossements des animaux qu'on aura mangés. Est-ce que ces ossements peuvent aussi servir de combustible, par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a eu des expérimentations. Là encore, on est dans l'actualisme. Il y a eu des collègues qui ont fait des expérimentations. Ils se sont aperçus qu'on ne pouvait pas forcément allumer un feu avec des ossements, mais par contre qu'on pouvait tout à fait alimenter un feu avec notamment toutes les parties spongieuses dont on parlait tout à l'heure, qui sont riches dans cette graisse là qu'on peut récupérer pour le bouillon gras. Et ben en fait, ces mêmes parties peuvent aussi servir à alimenter un feu, sachant qu'il y a des fois certaines périodes dans la préhistoire où il n'y a pas beaucoup de végétaux, pas beaucoup de bois. Donc oui, on retrouve beaucoup d'ossements, des fois dans certains foyers. Et ça peut être tout simplement des ossements qu'on servit comme combustible.
On va choisir les animaux qu'on va manger. La notion de goût, surtout les effets du feu sur la viande. Comment on passe du cru au cuit? Est-ce que la notion de goût, c'est une notion qui est abordée ou pas du tout, ou totalement subjective?
C'est une bonne question, ça.
Est-ce que ça a changé?
J'évoquais ça tout à l'heure pour la camomille, pour le goût amer, mais comme je vous le disais, il y a des sites où on va avoir de la viande cuite. On le retrouve sur les os, hein. Par exemple, on sait que les hommes pouvaient rôtir, par exemple. On a peu de choses au niveau des techniques culinaires, mais on a notamment sur les extrémités de certains os des parties brûlées. Donc on sait que les hommes ont mangé la viande cuite de façon, en la rôtissant. Donc ça, c'est... Oui, mais sur le goût, c'est compliqué, sachant qu'effectivement, il y a ces hommes qui vont cuire leur viande, et puis il y en a d'autres où on sait qu'ils avaient la connaissance du feu, très certainement, mais ils ne vont pas forcément l'utiliser, ils vont préparer la viande autrement, et la manger crue.
Là, je repense au triangle. On était à la conférence de Christophe Laval hier au Musée de l'Homme. Le triangle de Lévi-Strauss, il y a le cru, le cuit, puis il y a le fermenté. Donc effectivement, pour l'alimentation carnée, il ne faut pas négliger le fait que la fermentation est un moyen extrêmement efficace et tout à fait digeste de préparer la viande aussi. Un site archéologique, c'est pas parce qu'on a un feu qu'on a forcément un feu destiné à l'alimentation. Ça peut être un feu d'éclairage ou technique pour préparer des pieux, par exemple, ou des mastics pour fabriquer les armes. Donc les foyers, ils peuvent avoir des fonctions. Mais j'aimerais bien revenir un instant, pardon, c'est peut-être un peu décousu, mais parce que finalement, ça c'est les mêmes questions. Hein. L'art paléolithique, on est un peu embêté parce que d'abord, c'est quand même des dizaines de milliers d'années. Il y a autant de temps entre les artistes de Chauvet et les artistes de Lascaux qu'entre les artistes de Lascaux et les artistes contemporains. Donc ces dimensions incroyables temporelles, elles doivent nous permettre de relativiser. Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce qu'on peut dire c'est l'art paléolithique ou est-ce qu'il y a des arts paléolithiques qui... Voilà, c'est pas forcément la même fonction. Mais ce que je voulais dire, c'est un truc auquel moi je tiens beaucoup, c'est que, même si je suis pas spécialiste de l'art pariétal, c'est que quand on voit un bison dans une grotte, par exemple à Lascaux, c'est pas le bison. C'est une femelle gravide au printemps. C'est un mâle en rut à telle saison. C'est tel individu. C'est-à-dire que les peintres paléolithiques, quand ils représentent les animaux, ils représentent un individu particulier dans un contexte qu'une analyse éthologique, pour le coup, est capable de reconstituer. Donc ça montre bien une relation particulière à l'animal, même si l'animal n'est pas consommé, même si à Lascaux, il y a beaucoup de chevaux, beaucoup de rocs, beaucoup de bisons, et que, en gros, les sandwichs qu'on a trouvés, les sandwichs des peintres, c'était des sandwichs de viande de renne. Ok, donc il y a une grande dichotomie, ils n'ont pas représenté ce qu'ils ont mangé. Malgré tout, ces animaux représentés, cette mythologie paléolithique qui s'exprime sur les parois, elle renvoie quand même à une relation extrêmement forte avec l'animal, puisque ils connaissent les moindres détails, ces peintres-là, ou les bouchers, qui sont peut-être... D'ailleurs, c'est peut-être les mêmes, hein. Les bouchers et les peintres sont peut-être les mêmes personnes. On peut aller même un peu plus loin. Je pense que ça peut s'appliquer aussi bien à l'activité artistique d'un peintre qu'à l'activité d'un boucher paléolithique ou d'un tailleur de silex paléolithique. On sait, c'est pas toujours le cas, mais on sait qu'il y a des spécialistes au service du groupe. Il y a des gens dont la tâche, parce que ça leur plaisait plus, parce qu'ils étaient peut-être plus doués, parce qu'ils avaient plus de pratique, parce qu'on leur avait enseigné, ça renvoie aux notions de tradition, hein, étaient au service du groupe pour faire quelque chose comme, par exemple, tailler le silex très bien, dépecer un bison mieux que les autres.
Ça définit aussi, ça structure le groupe en termes d'action et de fonction dans le groupe.
Voilà. Et même pour l'art paléolithique, même si on n'a pas une preuve directe, mais on a une preuve indirecte très forte, c'est que il y a un très grand nombre, des centaines de sites ornés, et des milliers de dessins et de peintures, il n'y a pratiquement aucun repentir. Alors que quand on dessine ou quand on grave sur une paroi en calcaire, par exemple, si on se trompe, ça se voit. On ne peut pas effacer. Donc ce qui prouve bien qu'il y a un apprentissage et que ceux qui interviennent dans les cavités et qui font ces repentations, notamment animales, c'est des gens qui sont entraînés, qui ont une maîtrise technique évidente. Donc ça renvoie à cette idée d'un spécialiste. Et donc pourquoi pas imaginer, ce que j'avance, c'est absolument pas scientifiquement avéré, mais que pour les techniques de boucherie, il y a forcément des apprentissages de la technique et qu'il y avait probablement des gens qui étaient meilleurs que
un savoir-faire et une transmission de ce savoir-faire du fait au sein du groupe.
Donc notre petit boucher du coin de la rue, il a peut-être des ancêtres il y a plusieurs centaines de milliers.
Oui Camille.
Merci Roland pour la transition. Non parce que c'est quelque chose qui aussi me tient à cœur du coup si on passe de cette histoire des tâches et de la spécialisation des tâches en fait. Et qu'on revienne encore une fois à l'animal manger. Il y a actuellement j'ai une doctorante en fait qui va soutenir sa thèse là avant Noël. Et la question de son projet doctoral, c'était celle-ci. C'était est-ce que le registre osseux en fait, qu'on découvre dans les sites néandertaliens peut nous donner une indication de l'existence ou pas de techniques bouchères qui seraient en fait de tradition bouchère, des cultures bouchères.
De la manière aussi dont on prend soin de l'animal, dont on va le dépecer.
C'est la technique. Alors elle a pris l'entrée de cette recherche, c'était en fait la fracturation des os pour récupérer la moelle. Elle a mené des énormes expérimentations au sein du muséum. Elle a fait casser des os par beaucoup de gens au sein du muséum pour voir où se trouvaient en fait les points d'impact sur l'os. Et ces points d'impact, si on les retrouve toujours au même endroit, dans les sites archéologiques, là, ça va nous donner une idée peut-être d'une technicité, d'une transmission des savoirs, d'un savoir-faire bouché. Et je vous donne pas la réponse parce que ça va être avant Noël. Il faut venir à sa soutenance le 17 décembre.
Et éventuellement donc des cultures, des rites qui se transmettent.
Mais
c'est
pas évident dans des périodes anciennes surtout.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Soul Food, nourriture de l'âme de la Kenyan Wanjiru sur RFI, vous écoutez le goût du monde. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Camille Dojard, archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et Roland Nespoulet, préhistorien. Nous parlons de ce que nous mangeons il y a des millions d'années. Au temps du Paléolithique, nous partageons un repas autour donc d'un foyer, j'imagine, un repas de racines peut-être, de viande et de baies. Autour du feu justement, est-ce que l'on sait quelque chose de comment se prenaient les repas?
Est-ce qu'ils mangeaient à des horaires fixes? Comment se passait la distribution de la nourriture? Qui cuisinait? Voilà, ça, honnêtement, pour le paléolithique, on est bien en peine de le raconter. Peut-être que pour les périodes plus récentes, au néolithique, là, on a plus d'éléments. Ça vaudrait le coup de faire une émission rien que sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à essayer de décrire. Finalement, par déduction, on peut arriver, par exemple, à dire... Voilà, on sait que ce campement, il a été occupé durant une saison seulement, donc un mois ou deux, qu'il y a tant d'ossements qui ont été retrouvés et tant de restes végétaux lorsqu'on les retrouve, que ça représente tant de kilos de nourriture et de calories, et qu'on peut estimer que, il y avait, sur deux mois, ça correspond à un groupe de 6 à 10 personnes.
Donc, peut-être des fosses également où on réservait, où on préservait, une organisation également du campement.
Alors ça, c'est un sujet extraordinaire. C'est extrêmement intéressant, c'est une voie qui est connue depuis très longtemps en préhistoire, mais dont les études vraiment poussées n'ont commencé qu'il y a très peu de temps. Parce que ça renvoie à deux choses, le stockage. Ça renvoie à le fait que, bien sûr, on projette dans le futur et on s'organise. Il y a beaucoup d'exemples ethnographiques, où il y a des caches. Et dans un nomadisme récurrent, on sait qu'on va trouver de l'eau ou de la nourriture à tel endroit. Mais ça renvoie aussi au fait qu'il y a un territoire qui se dessine. Et ça, c'est le territoire alimentaire est extrêmement intéressant. Ce qu'on sait déjà depuis longtemps, c'est que les hommes, finalement, c'est pas des grands migrants. Il faut enlever cette idée reçue des hommes préhistoriques qui traversent un continent de l'est à l'ouest ou du nord au sud. Ça a pu arriver que des individus soient explorateurs, mais en général, le nomadisme paléolithique, c'est 20, 30, 40, 50 kilomètres maximum. C'est donc dans un territoire qui est bien délimité. Et ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir une expédition qui va, dont le but principal, ça va être d'attraper des animaux et de les ramener. Puis, en passant, il y a un affleurement de silex. On en profite pour ramener du silex avec nous. Ou à l'inverse, on va un endroit où on sait qu'on va trouver du bon silex à 50 km de chez soi. Et puis, au passage, on attrape des lièvres et on les ramène. Donc, il y a ce territoire humain qui se dessine à travers les connaissances archéologiques, mais à travers l'alimentation. Donc, je reviens sur les caches ou sur les fosses ou les structures de stockage. Sujet fabuleux. Mais peut-être je peux laisser Camille en parler. Mais
en fait, j'avais envie qu'on passe encore un peu à table aussi avec vous, parce que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un banquet. Alors des gens assis autour d'une table et qui vont manger ce qu'on mangeait au Paléolithique. En fait, c'est un banquet à quatre mains que vous avez imaginé avec le chef cuisinier Emmanuel Perraudin. Et donc, évidemment, je l'ai appelé pour essayer d'avoir des informations sur ce qu'on allait trouver dans les assiettes. Et Emmanuel Perraudin ne m'a bien sûr rien livré sur le contenu du menu qui sera servi à ce banquet, mais m'a parlé tout de même de l'attention portée au mode de cuisson.
On a essayé de travailler différents modes de cuisson. Ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'on est dans un lieu qui ne permet pas la flamme, qui ne permet pas la fumée, le musée de l'homme. Donc, il faut avoir travaillé un peu en amont et puis donner l'évocation aussi de la chose. De regarder aussi un tout petit peu en ethnologie, de voir ce qui se passait chez les peuples amérindiens ou chez les Bushmen ou chez les aborigènes. D'ailleurs, un des plats qui s'articule autour du goût de la mer, parce que celui-ci, j'en ai eu envie tout de suite, parce que déjà, ça faisait partie d'une des premières choses qu'avait raconté Roland, justement, sur un site au Maroc.
Où, les coquillages.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, à travers une autre discussion avec un ami qui me disait que la première chose qu'il faisait quand il arrivait au bord d'une mer, c'était de goûter les bréniques, ou les patelles, ou les arapèdes, pour savoir quel était le goût de la mer à cet endroit-là. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et du coup, j'ai coupé ça avec une méthode de cuisson préhistorique, qui est encore pratiquée aujourd'hui en Amérique du Nord. Cuisson sous la terre, dans l'argile. Et on essaie de travailler sur une restitution probable, plausible, en tout cas gustative, de cela.
Est-ce que vous avez utilisé également les bouillons ?
Oui, bien sûr. Et en plus, en essayant de travailler avec une réchauffe à la pierre, en fait. Vous savez, on chauffe des pierres et on réchauffe le bouillon petit à petit. Grâce à cela, donc ça entraîne des modifications, des variations de température dans le bouillon. Donc oui, alors évidemment, en plus des bouillons gras, ça, pour le coup, je peux le dire, des bouillons à base de moelle, parce que ça me paraissait important et évident de travailler autour de cela. Il y aura aussi des bouillons un peu plus surprenants. Un bouillon, en tout cas, un peu plus surprenant, où on va travailler sur la notion, justement, de bouillon repas et de bouillon sacré. Et en interrogeant également les tabous, ça faisait partie des choses qui, moi, m'intéressaient aussi dans ce dîner-là, de savoir où commençait, où s'arrêtait l'aimable et où pouvait commencer aussi le questionnement et l'étrange. À aucun moment donné, ce sera affiché, mais cette notion de sacré-là, la recherche du signifiant, en tout cas, a été essentielle dans le repas que j'ai écrit.
Le sacré, évidemment, Emmanuel Perraudin, pour ce banquet que vous avez réalisé donc à quatre mains. Roland Espoulet également. Le sacré, on en a à peine parlé. En même temps, il était un peu en filigrane à certains moments de l'émission. Il faudra faire une autre émission, je crois. C'est la tradition dans le goût du monde. Je vous demande généralement, mes invités, d'apporter un ingrédient et un ustensile avec eux. Camille Dejar, honneur aux femmes.
Ça va être assez facile, en fait. Ça va rebondir sur plein de choses dont on vient de parler. Donc, un os à moelle, allez, avec un galet rond et bam.
De quel animal, l'os à moelle ?
Allez, bah là... Du bœuf, hein.
Roland Espoulet.
J'ai pas pu amener l'objet parce qu'il est précieusement caché dans les réserves du Musée de l'Homme. C'est un objet en silex. On appelle ça un racloir quina parce que ça a été dénommé par rapport à un site qui est en Charente, le site de la quina. Ça a été fabriqué par Néandertal. C'est des objets magnifiques. Ça fait environ 15 à 20 cm de long. C'est un peu ovalaire. C'est retouché. Et l'expérimentation, on a pas mal parlé au cours de l'émission, donc le fait que des archéologues refont les gestes paléolithiques, montre que c'est probablement le couteau de boucher pour le dépeçage en particulier, le plus ergonomique qu'on ait jamais fabriqué, et il a été inventé il y a au moins 300 000 ans.
Merci beaucoup à vous deux. L'histoire ne fait que commencer, hein. Donc vous reviendrez.
Merci Clémence, ouais, avec plaisir.
Dites-nous ce que ce voyage gastronomique dans le temps vous a inspiré. Y a-t-il des recettes que vous connaissez qui auraient peut-être traversé les siècles ? Qui sait ? Que pensez-vous de cette alimentation paléo ? Un message audio, une vidéo, partagez donc, que l'on puisse partager à notre tour. 33 6 43 16 15 66, c'est notre numéro WhatsApp, votre numéro. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission. Merci à Emmanuel Perraudin, évidemment. À vous tous de nous être fidèles. Bienvenue à Kevin Cagnon-Nada sur notre page Facebook. Cassec Madiqué, Bourgeois Gabourne et Claude Fuge notamment. À la semaine prochaine.